Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Nous sommes cette semaine à Strasbourg à l'occasion d'un colloque consacré à la radio et à son évolution à l'ère numérique. Restitution de cet événement qui a attiré une centaine de chercheurs, de journalistes, de spécialistes dans l'atelier des médias aujourd'hui. Francis Pisani devait être des nôtres en fin d'émission. Il a eu un petit empêchement, mais ne vous inquiétez pas, il sera de retour la semaine prochaine.
L'atelier des médias. La web émission participative. RFI. Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Ça, c'est RFI.
Bonjour, Aude Jiménez.
Bonjour.
Tu es chercheuse à l'Université du Québec?
Oui, du Québec à Montréal.
Et tu as proposé lors de ce colloque qui nous réunit, qui est organisé par le GRER, une présentation sur les radios communautaires en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest et même encore plus précisément au Sénégal, face au numérique.
Oui,
tu peux nous expliquer ?
Ouf, ça va être dur de faire court après avoir déjà eu du mal à faire un quart d'heure tout à l'heure. En gros, j'essaie de voir comment ces radios, qui sont celles qui ont le moins d'argent, font leur transition vers le numérique avec toutes les contraintes donc financières prioritairement que cela pose, mais aussi les questions concernant le fait qu'elles sont très attachées à leur territoire, qu'est-ce que ça donne sur le web, enfin voilà quoi. Ce genre de questions, qu'est-ce que ça change de faire de la radio en Afrique dans une petite radio communautaire en général avec l'arrivée du numérique.
Alors les radios communautaires, c'est quelque chose de particulier peut-être, enfin, on appelle ça radio communautaire, on utilise aussi radio de proximité, il y a toutes sortes de dénominations. Ce sont des radios plutôt à portée locale, souvent en langue locale, ce qui les distingue des grands médias, soit nationaux, soit internationaux, c'est ça?
Voilà, on retient le but non lucratif, a priori, hein, donc on les appelle aussi radio associative pour ça dans certains pays. Le but non lucratif, le fait que ce sont des radios effectivement en langue locale, le fait que ce sont des radios, donc je le disais, qui ont des équipements et des moyens financiers assez modestes, et puis des radios avec une forte, en tout cas au niveau de la philosophie, la participation est très importante. On essaie vraiment d'être une radio pour et par la communauté à laquelle on appartient.
Pour, parce que les contenus de ces radios-là sont très pratiques, ça va parler de santé, de reproduction, de santé maternelle et infantile, etc. Enfin, c'est très en direction des communautés, en fonction des réalités locales.
Oui, alors il y a cet aspect-là, très pratico-pratique, qui est beaucoup amené par les ONG qui y contribuent, etc. Mais il y a aussi du divertissement, de la musique, etc.
Tu t'es intéressé donc à l'apport, ou en tout cas à la confrontation numérique, que tu as divisé en trois secteurs, en gros, c'est ça, Internet, voilà, le téléphone mobile, qui est quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus massif finalement qu'Internet, et d'ailleurs téléphone mobile qui apporte lui-même Internet avec les connexions 3G notamment, et l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que tu as découvert? Encore une fois, sur le Sénégal essentiellement.
Oui, alors, moi j'ai surtout lancé des pistes en fait, parce que je suis au début de mon doctorat, donc il va falloir que j'aille vérifier ce que j'ai lu et voilà. Mais en gros, dans la littérature, ce qu'on trouve, c'est que j'ai présenté aussi, j'ai essayé de trouver en fait ces radios communautaires sénégalaises sur le web. Donc au niveau d'Internet, il y a encore très peu, c'est encore très marginal quoi. Donc il y a des changements de pratiques journalistiques grâce au téléphone, beaucoup téléphone mobile, par l'utilisation des SMS notamment. Donc les changements sont beaucoup plus apparus par effectivement la téléphonie mobile que par Internet, même si les changements apparaissent par Internet parce que les publics ont changé. Pas forcément parce que les radios sont en ligne, mais parce que les publics, comme ils ont accès à Internet, ils sont davantage érudits, pour reprendre les termes du chercheur en question, et donc les journalistes doivent s'adapter. Donc il y a ça aussi. Et pour en venir aux médias sociaux, les radios communautaires sénégalaises sont pas encore vraiment présentes sur les médias sociaux. Ça reste très marginal encore à ce niveau-là.
Pourquoi est-ce qu'une jeune chercheuse comme toi s'intéresse à la radio et en particulier aux petites radios du Sénégal ?
Il y a deux amours. D'abord, je fais de la radio depuis très longtemps, de la radio communautaire depuis très longtemps. Donc ça, c'était vraiment, je voulais chercher, c'était là-dessus. Et après, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Radio-Canada International dans une émission qui s'appelle Tam Tam Canada. qui était, parce que malheureusement à cause de coupures budgétaires l'émission n'existe plus, mais qui était très largement diffusée en Afrique. Et donc sur 2 heures de quotidienne, on avait 1 heure africaniste. Et donc moi j'étais recherchiste, j'étais chroniqueuse et tout ça, et j'ai rencontré beaucoup de personnes en lien avec l'Afrique, et ça m'a vraiment donné envie d'explorer ce média-là, là-bas, qui est si important là-bas, en fait. Voilà, donc je me suis dit, tant qu'à faire, on met tout ensemble, et puis ça donne radio communautaire en Afrique. Voilà.
Et quand, comme toi, on a un pied dans la pratique radiophonique, un pied donc dans la recherche, comment est-ce que tu as ressenti les 2 jours de colloque, les différentes présentations ici, quelle perception tu as eue? J'ai vu que tu étais là pratiquement tout le temps.
Oui, ben, moi j'aime beaucoup ces moments-là parce que faire de la recherche, c'est beaucoup être tout seul, hein, faut le dire quand même. Donc là, on se rencontre, beaucoup de gens qui aiment la radio, qui sont là pour en parler. Pour être honnête, j'ai trouvé dommage que souvent, on n'ait pas assez de temps pour discuter entre nous. Mais ça, c'est des problèmes de calendrier. Je veux dire, on fait ce qu'on peut. On était très nombreux et c'était très bien. Et donc après, voilà, on va manger ensemble ce soir et puis on va discuter. Et puis ça va être très bien.
On va continuer notre découverte, pratiquement notre tour d'Afrique. Bonjour Marie-Soleil Frère.
Bonjour.
Avec toi, on reste donc sur le continent africain, sur lequel tu travailles et auquel tu as consacré l'essentiel de tes recherches depuis toujours. Tu es enseignante à l'Université Libre de Bruxelles, tu es chercheuse en sciences sociales spécialisée dans les médias africains, on peut dire ça?
On peut dire ça comme ça, oui.
Tu le dirais différemment?
Non.
Non, ok, ça va. Tu es auteur de plusieurs livres. Le dernier que j'ai repéré, tu me corriges si je me trompe, qui s'appelle « Élections et médias en Afrique centrale ». Il est publié chez Cartala, c'est ça?
C'est bien le dernier, oui.
Lors du colloque, tu as parlé de la région des Grands Lacs, en particulier la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Et tu as dressé une sorte de tableau du paysage radiophonique qui est très vivace, très actif, très dynamique dans ces pays qui sont pour certains encore dans des situations de guerre, pour d'autres qui en sont sortis, et où les radios, malheureusement, on pense au Rwanda, ont joué un rôle très négatif. On pense à la radio des Mille Collines, évidemment.
Oui, alors la situation, évidemment, est différente au Rwanda, au Burundi et au Congo. Il n'y a pas le même pluralisme, la même diversité, il n'y a pas la même liberté de ton dans les radios des trois pays, en particulier si on compare le Rwanda avec le Burundi et le Congo. Le Congo, c'est un pays très impressionnant en termes de masse. Il y a plus de 450 radios aujourd'hui, mais c'est vrai aussi que c'est un immense territoire. Le Burundi se caractérise par des radios privées qui sont des radios souvent de statut associatif d'ailleurs, assez professionnelles et assez impertinentes vis-à-vis du pouvoir, en tout cas qui ont vraiment une tradition de journalisme d'investigation, de dénonciation, et qui sont aussi des radios qui accordent énormément la parole à leurs auditeurs. Et puis au Rwanda, on est dans un espace qui effectivement continue à subir un peu le traumatisme de ce qu'a été la radio-télévision Mille Collines. Donc c'est un paysage radiophonique qui s'est libéralisé beaucoup plus tard que dans les 2 autres pays. Il y a seulement 10 années que les radios privées ont été réautorisées au Rwanda, et dans un dispositif qui est beaucoup plus contraignant, avec énormément d'autocensure et toujours cette menace brandie par les autorités au sein de la profession, qu'il ne faudrait pas recommencer les erreurs du passé, et donc il y a un certain nombre de propos qu'on ne peut tout simplement pas tenir à l'antenne.
Et tu as plus particulièrement exploré les audiences de ces radios, leur goût, à quoi elles s'intéressent, pourquoi elles s'y intéressent. Tu as réuni des panels pour ça. Tu t'es finalement assez peu intéressé à la partie numérique ou à leur confrontation au numérique, parce que peut-être qu'à tes yeux, ou peut-être que sur le terrain, c'est pas quelque chose d'extrêmement important, ou c'est pas quelque chose d'extrêmement préoccupant. C'est ça?
Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et que le basculement au numérique, c'est quelque chose qui a rendu aussi cette aventure-là possible, d'une radio très pluraliste, qui a permis d'accroître la participation des auditeurs, qui a changé profondément la manière dont les journalistes travaillent, donc à la fois leur accès à l'information, l'accès aux personnes ressources, aux témoins ou aux acteurs, mais aussi la manière dont les journalistes peuvent par exemple transmettre du son depuis l'intérieur du pays. Donc ça a changé les pratiques journalistiques, ça a changé donc aussi l'identité professionnelle des journalistes, et ça a changé profondément la manière dont le public se rapporte à ces médias.
Et l'outil d'ailleurs, tu peux terminer, mais l'outil qui a vraiment révolutionné les pratiques dans ces régions-là, c'est avant tout le téléphone mobile qui est arrivé dans des zones où il n'y avait pratiquement pas de communication téléphonique ou extrêmement rare. Et d'ailleurs, on en a parlé, il y a eu une communication sur le téléphone mobile qui a été faite par Étienne Damom de l'université de Bordeaux, je crois, c'est ça ? Oui. Et plus que l'Internet, évidemment, l'Internet est en train d'arriver beaucoup plus doucement, mais c'est le téléphone mobile a révolutionné les pratiques et a permis de faire des choses qui étaient impensables, ne serait-ce que des communications téléphoniques, des enregistrements téléphoniques en direct, etc.
Oui, et de manière vraiment fulgurante. Je pense que s'il y a 10 ans, on avait posé des questions sur comment l'Afrique allait évoluer en termes d'équipement, personne n'aurait pu pronostiquer qu'en l'espace de 5 ans, on allait passer dans un pays comme le Congo à de presque rien à plus de 60% de population équipée de leur téléphone mobile. Donc on est vraiment, voilà, pour rester sur l'exemple du Congo, c'est un pays de 80 millions d'habitants dans lequel on estime le nombre de lignes fixes téléphoniques après 30 années d'histoire du téléphone fixe dans ce pays à tout au plus 42, 43 000 lignes fixes, et on est aujourd'hui à près de 20 millions de téléphones portables. Et ça s'est passé en l'espace de même pas 10 ans. Donc on est vraiment en face d'une transformation assez extraordinaire. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment aujourd'hui les publics, les audiences, comment les citoyens de ces pays s'emparent de ces instruments-là pour les utiliser, les mobiliser dans leur rapport à l'information, pour accéder à l'information, et puis pour participer aussi à la production d'informations et à tout simplement la possibilité d'exprimer leur avis sur ce qui se passe dans leur pays.
Et plus généralement, tu t'intéresses aussi à l'impact réel de ces radios, de tous ces médias radios, qui, tu le rappelais, ont reçu des financements massifs de bailleurs internationaux, d'ONG, depuis une dizaine d'années, et sans véritablement se poser de questions sur quel est l'impact de ce qu'on est en train de faire, quel est l'impact de cet argent qu'on est en train d'injecter. Et tu es arrivé à des conclusions qui sont plutôt perturbantes pour l'argent dépensé dans les radios, dans ces régions, c'est ça ?
Alors, toutes les radios n'ont pas bénéficié d'un appui massif. Donc, il y a vraiment des radios qui, effectivement, ont été mises en place uniquement grâce à l'aide internationale. Je pense à une radio comme Radio Okapi au Congo, qui est une radio qui a pour caractéristique, qui a été mise en place par la MONUC, donc l'opération de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, et qui est une radio dont le coût de fonctionnement quotidien n'a rien à voir avec le budget des radios locales. C'est une radio qui a besoin pour fonctionner d'environ, enfin, c'est des estimations, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont rendus par la MONUC qui ne sont pas chiffrables, mais qui a besoin d'environ 10 millions de dollars pour fonctionner par an, alors que la radio communautaire Mandeleo à Bukavu, si elle trouve 250 000 dollars ou 300 000 dollars pour tourner chaque année, voilà, elle pourra fonctionner. Donc il y a des médias effectivement qui ont été largement soutenus par l'aide internationale. Je pense aussi par exemple aux radios burundaises. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les principales radios associatives qui font de l'information au Burundi, ce sont des radios qui, dont 80-85% du budget dépend de l'aide étrangère, de l'aide d'ONG ou de bailleurs de fonds internationaux. Par contre, ce sur quoi moi je m'interroge, donc c'est pas tellement sur ce financement structurel de médias qui effectivement joue un rôle tout à fait essentiel au niveau local. Je crois qu'une radio comme Radio Okapi, les radios burundaises sont des radios qui véritablement sont devenues essentielles pour les citoyens congolais ou burundais. Moi, ce qui m'interroge, c'est l'existence de projets de réconciliation au niveau régional où on a essayé de mobiliser les journalistes et en particulier les radios pour diffuser des programmes visant à la réconciliation des populations, que ce soit la réconciliation au niveau national ou local, ou la réconciliation transfrontalière. Et simplement, en s'intéressant au public, quand on s'intéresse
à l'impact, notamment,
en tout cas aux pratiques des gens, qu'est-ce que les gens écoutent, qu'est-ce qu'ils aiment écouter, on se rend compte que beaucoup de ces programmes sont des programmes qui ont visé à côté de leur cible, faute de la connaître, cette cible. Parce que on constate par exemple que dans un pays comme le Burundi ou au Rwanda, les gens n'écoutent pratiquement la radio qu'en langue locale, en Kinyarwanda ou en Kirundi. Et donc une émission qui est une émission en français, déjà pour eux c'est rédhibitoire. Donc voilà, on constate aussi que les gens n'écoutent pas du tout la radio à certains moments de la journée, qui peuvent être les moments où les radios choisissent de diffuser ces programmes de réconciliation transnationaux. Et donc simplement, je pense, mais ça ne vaut pas seulement pour ces programmes-là, mais qu'on connaît très peu les auditoires, les audiences des radios africaines. Il y a très peu de chiffres. Alors, il y a quelques sondages qui existent, qui permettent de faire des classements en disant, voilà, la radio la plus écoutée, c'est celle-ci ou c'est celle-là. Mais finalement, ce que les citoyens africains font au quotidien avec la radio, comment ils l'utilisent dans leur quotidien, ce qu'ils souhaitent apprendre à travers la radio, comment ils valorisent ce qu'ils apprennent, les éléments d'information qui leur sont transmis par la radio, c'est très peu connu. Et donc voilà, je trouve que des recherches comme celle-là, elles sont essentielles et j'espère qu'elles vont permettre aux radios de réfléchir à l'ensemble des radios, que ce soit des radios financées par l'aide étrangère ou pas.
Une question plus générale pour en revenir au colloque. Toi, tu as travaillé sur différents médias dans différents pays d'Afrique, la presse écrite, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand on travaille sur des questions liées à la radio ?
Oui, je pense que c'est ce qui est extraordinaire quand on travaille sur la radio dans ces pays-là, c'est qu'on travaille sur le média qui reste le média essentiel pour l'ensemble de la population. Et donc,
notamment parce qu'il est en langue locale, souvent.
Il est en langue locale, il est souvent le seul accessible, parce que la télévision, elle émet sur des périmètres restreints, la presse écrite, elle circule très mal. Internet, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais il faut savoir qu'au Burundi, au Congo, on est peut-être à 2% de taux de pénétration. Donc, ce n'est pas du tout un média qui est accessible largement. Et donc, la radio
est... C'est peu coûteux et mobile, etc.
Oui, et puis il faut de l'électricité. Alors, quand vous avez un pays comme, de nouveau, le Congo, le Burundi, a peut-être 80% du territoire qui n'est pas électrifié. Donc, la télévision, l'Internet, c'est très compliqué. Par contre, la téléphonie mobile... Oui, ou même la téléphonie mobile, vous pouvez avoir votre téléphone et vous pouvez aller le recharger, faire 15 km ou 20 km pour trouver quelqu'un qui a un groupe électrogène qui va vous permettre de recharger votre téléphone. Donc la radio est fascinante en Afrique parce que c'est véritablement, en tout cas en Afrique francophone et dans les parce que la situation est un peu différente en Afrique anglophone, c'est vraiment le média à travers lequel les gens construisent leur citoyenneté au quotidien. Et donc, c'est déterminant par rapport à l'avenir politique de ces pays et à l'avenir de la citoyenneté dans ces pays.
RFI.
On s'est rencontrés avant le mariage et on a demandé à nos parents de l'arranger. Le soir, avec des amis, j'allais lui rendre visite chez elle. Parfois, on flirtait. On y allait à cheval. Aujourd'hui, on a les téléphones portables. Mais avant, on allait voir les filles à cheval. On se voyait dans la maison, pas dans la forêt. Des fois, j'y allais seul. D'autres fois, avec des amis du village. Mais pas avec mes frères. Les parents n'étaient pas au courant. Ils l'ont su seulement après le mariage. Je l'ai séduite avec des belles paroles. Ici, on dit que la séduction, c'est comme préparer un bouillon. Il faut tourner longtemps.
Ici vivent les Nimba, un peuple de culture tibétaine. Ils sont réputés pour pratiquer la polyandrie sous sa forme la plus courante, dite adelphique. C'est-à-dire que la femme épouse une fratrie.
Les dizaines de maisons du village de Bargon, tout près de Torba, se succèdent de palier en palier. La pierre et la poussière, beaucoup de poussière, donnent un ton grissable à l'ensemble.
Bonjour Andrada Noagiu.
Bonjour.
Tu es documentariste radio, tu as travaillé pour Arte Radio notamment, plus récemment et plus régulièrement peut-être pour France Culture, où tu viens de signer d'ailleurs une série sur les femmes polygames.
Voilà, ce sont des femmes polyandres. On est un duo d'auteurs avec Anne-Julie Martin. On est parti près de 3 mois en Asie, en Chine, au Népal et en Inde. Et on s'est intéressé à cette forme de polygamie féminine, où en fait les femmes ont plusieurs époux. Alors ça peut avoir des formes très différentes.
Des raisons ou des explications ou des motivations sociales.
Des raisons démographiques, économiques, ou encore pour le manque de femmes en Inde.
C'est un sujet que vous allez d'ailleurs transformer, là, on revient sur le numérique, en web documentaire, donc en documentaire interactif, en documentaire web. Dans les semaines à venir, je dis vous donc parce que tu l'as fait avec Anne-Julie Martin qui d'ailleurs a travaillé régulièrement à Radio France Internationale.
Exactement, oui.
Et vous allez le transformer en web documentaire parce que vous l'avez tourné en images, vous avez déjà pensé, en fait, en réalisant ce documentaire radio diffusé sur France Culture, à en faire une version adaptée à un autre contexte qui est celui de l'internet, du web, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, faut savoir aussi qu'en partant loin, on pouvait pas se permettre de faire du repérage, puis de revenir. Parfois, il fallait marcher 4 jours pour aller rencontrer certains peuples perchés très haut dans l'Himalaya. Et donc, la phase d'écriture a été très importante déjà avant de partir, et puis encore quand on était sur place. Donc, on a tourné les deux d'un coup. Pour une autre raison aussi, qu'on s'était dit que là...
Tourner les deux, c'est-à-dire un web documentaire et un sujet radio,
c'est ça,
quoi.
Exactement. Ouais. Et puis on s'était dit que bon, déjà c'est dommage d'aller si loin, de pas ramener des images, parce qu'il y a des paysages assez époustouflants, des gens qui ont des visages impressionnants. Et puis c'est un sujet qui est très vaste, qui prend des formes très différentes en fonction des pays et des configurations familiales qu'on a été voir. Donc on s'était dit qu'en plus des unités radiophoniques qu'on pourrait produire, ce serait intéressant d'avoir quelque chose de plus global, de plus foisonnant et peut-être aussi de plus complet.
Tu as participé ici à une table ronde qu'on a mentionnée brièvement dans la première partie de l'émission, en compagnie de plusieurs journalistes de sites radio, RTL, de mémoire, Europe 1, France Info. Il était question des pratiques de ces grandes radios, de ces grands médias sur Internet. Qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce qui t'a marqué dans ces échanges?
Alors, moi, ce qui m'a marqué le plus, mais je crois que Christophe Deleu en a parlé tout à l'heure, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en allant interroger quelles sont nos pratiques de journalistes pour faire exister notre radio hertzienne sur Internet, finalement, le son en est assez délaissé. Il y a plutôt un alignement sur l'image, sur le son, chose qui appartient aussi à d'autres médias et qui ne sont pas forcément spécifiques à la radio. Et que, plusieurs personnes d'ailleurs l'évoquaient, les radios n'ont pas les moyens de produire autant de textes, d'images, de vidéos.
Qu'un média comme un média papier qui lui-même déjà fait beaucoup de textes par nature, quoi.
Exactement, voilà. Et donc, moi, j'étais restée sur cette question à la fin, mais où est le son? Mais il y a eu aussi des questions assez intéressantes sur la temporalité, qui est quelque chose de très important dans la radio, où finalement, on se rend compte que Internet peut aller encore plus vite que la radio, c'est-à-dire ne pas forcément attendre la matinale ou le journal de 18h, notamment dilemme quand on a un scoop, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde au chaud ou est-ce qu'il va être dévoilé par quelqu'un d'autre avant le premier journal?
Pour en revenir à la place du son à la radio, toi tu es une jeune journaliste, tu as été diplômée il y a 4 ans de l'école de journalisme de l'université de Strasbourg, c'est ça? Donc du collège. Comment tu comprends cette absence de son? En fait, dans le panel, tu étais pratiquement la seule personne à parler véritablement de son. Non pas que tu étais la seule à savoir en faire ou à savoir faire des sujets radio, mais la seule. Et on a parlé pendant très très longtemps d'Internet, de web, etc., en parlant très peu de radio. Comment tu comprends ça?
C'est difficile d'avoir un point de vue sans avoir assez de recul depuis tout ce qui s'est dit, et puis c'était de loin pas exhaustif. Il y a forcément quelque chose d'assez hypnotique dans le traitement de l'image et dans les flux auxquels on est de plus en plus habitué. On se disait aussi, par exemple, que le son, ça marche quand même moins bien en termes d'efficacité pour capter un public.
En ligne.
En ligne, en tout cas, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des radios, notamment, je vais prêcher pour ma paroisse, Arte Radio, où j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans, qui se déploient uniquement sur Internet, qui a une réelle communauté de public, avec beaucoup de fans, de fidèles, et du coup, qui crée une identité plastique, esthétique et éditoriale très forte, très marquée. Et donc, ça devient entièrement une marque en soi, avec un public très, très fidélisé. Donc, je pense que ce doit être possible, peut-être à condition d'avoir cette identité ou cette communauté.
Je viens de le dire, toi tu es diplômé depuis 4 ans d'une école de journalisme. Tu as choisi un chemin de traverse, on peut dire ça. Quand on devient documentariste radio, c'est plutôt un chemin de traverse. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que c'est justement parce que c'est l'univers ambiant, l'univers journalistique ambiant confronté au numérique qui t'a mené vers ça? C'est quoi les raisons?
C'est pas forcément ça. On parlait de temporalité tout à l'heure. Et moi j'avais depuis le début une passion pour la radio que je voulais exploiter, mais aussi une passion pour le joli son, pour le montage. Et finalement, la production quotidienne d'informations qui constitue le débouché principal des formations radio, ça me laissait un petit peu sur ma faim. J'avais envie d'enregistrer de belles choses très longuement, de rentrer dans la vie des gens, de les écouter. Et par exemple, c'est quelque chose que je peux faire dans des espaces de création comme les Arte Radio, mais c'est plus tout à fait le même métier. En effet, il faut plus rentrer pour le journal de 13h, un chanson d'une minute 10, tout en ayant une de l'information, de développer un côté plus créatif, donc de laisser le son respirer, de mettre en place des dispositifs pour interroger les gens différemment. Voilà.
Est-ce que le web, l'internet permet justement ou rend plus réaliste ce type de choix aujourd'hui à tes yeux, puisque avec l'exemple, je pense à l'exemple de votre web documentaire qui est à la fois un documentaire radio, un voyage du coup, etc., etc.
Alors je dirais que ça, et ça c'est quelque chose qu'on a senti aussi, enfin que j'ai senti puisque j'étais un peu à part lors de la table ronde, on a beaucoup parlé de journalisme, de production d'informations très quotidienne, alors que peut-être que ce que va permettre Internet, c'est quelque chose d'un peu plus large, de prendre le temps, de ne pas produire tous les jours. C'est pas le même métier que de devoir rendre compte de l'information heure par heure, jour pour jour, ou se demander comment créer un objet radiophonique ou sonore plus élaboré. Mais là, justement, oui, ça se voit, et même sur des plateformes assez confidentielles. Alors, il y a les audioblogs d'Arte Radio, mais il y a aussi des radios étudiantes, des radios campus qui prennent très peu d'antennes ou pas du tout, et des plateformes d'échange de passionnés du son qui, là, arrivent en effet à faire ça.
Information et journalisme radiophonique à l'ère numérique, c'était le thème de deux jours de rencontres et de présentations organisées par le GRER, le groupe de recherche et d'études sur la radio. Vous trouverez bien entendu des informations complémentaires, des liens et la version longue de ce colloque ou de ce compte-rendu de colloque sur le site de l'Atelier des médias.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 330 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mellat, Raphaël Constant, Dilette Sadaoui, Ismaël Alissat, Jamel Belayachi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et bientôt arablog.org. Vous en saurez plus dans les semaines à venir. Salut à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini? Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.